et l'exerce pendant 72 jours. Réalisant la première tentative, remarquable malgré le peu de temps dont il eut disposé d'une société nouvelle. Ce fut la Commune de Paris. Malgré qu'elle fut noyée dans le sang par la soldatesque de Thiers, la Commune vit dans les mémoires et doit continuer à vivre. Premier pas sur le chemin du socialisme, première grande révolution prolétarienne, elle demeura longtemps la seule et à ce titre une référence obligée. Elle servit de matière pour l'élaboration de la pensée de Marx, Engels et Lénine sur la révolution, la nature et les tâches de l'État née d'une révolution prolétarienne. À ce titre, elle eut une influence majeure sur le mouvement révolutionnaire ultérieur. Elle inspira bien entendu d'autres courants de pensée que le marxisme, l'anarchisme principalement, dont les penseurs anarchistes tirèrent bien entendu d'autres conclusions que Marx de cette révolution. Les primitifs bourgeois, par contre, ne surent jamais rien opposé à la Commune que la calomnie grossière et stupide ou l'oubli pur et simple. Alors le Parti du Travail ne pouvait pas laisser passer ce 150e. Nous aurions bien sûr préféré organiser une vraie commémoration publique digne de ce nom, mais malheureusement, à cause de la pandémie qui perdure, nous devons nous contenter de ce modeste live Facebook. Donc je vais parler pendant une heure environ. N'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai à la fin. Alors la Commune mérite d'être célébrée, tant par son statut d'événement structurant et fondateur, que parce que le temps qui nous en sépare ne lui a rien fait perdre en tant que source d'inspiration. Ainsi, parce que la lutte des idées est une partie essentielle de la lutte politique telle que nous la concevons, parce que pour les peuples, les travailleurs, les classes populaires, il est vital de connaître leur histoire, pas seulement l'histoire officielle, écrite par les classes dominantes, mais leur propre histoire, une histoire populaire, une histoire des luttes menées par les peuples et les classes subalternes à travers l'histoire pour secouer les chaînes de l'oppression et pour leur émancipation. Alors, qu'est-ce qu'était la Commune de Paris? Alors, ce qui définit principalement la Commune de Paris, ce qui en fait l'essence par-delà toutes les contingences et les aspects importants mais secondaires, c'est qu'elle fut, pour la première fois de l'histoire, une expérience du pouvoir de la classe ouvrière. Comme l'écrit Marx dans La guerre civile en France, la multiplicité des interprétations auxquelles la Commune a été soumise et la multiplicité des intérêts qu'elle a exprimés montrent que c'était une forme politique tout à fait susceptible d'expansion. Tandis que toutes les formes antérieures du gouvernement avaient été essentiellement répressives, son véritable secret le voici. C'était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des appropriateurs. La forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique du travail. Précisons qu'il ne s'agit pas simplement d'une théorisation effectuée a posteriori par Marx, mais que c'était un aspect dont les communards eux-mêmes étaient pleinement conscients. L'extrait suivant, daté du 21 mars 1871, soit 3 jours après l'insurrection, un extrait du journal officiel édité par le comité central de la garde nationale qui assumait le pouvoir de fait à Paris, est très éclairant à cet égard. Les prolétaires de la capitale, au milieu des défaillances et des trahisons des classes gouvernantes, ont compris que l'heure était arrivée pour eux de sauver la situation en prenant en main la direction des affaires publiques. La bourgeoisie, leur aînée, qui a accompli son émancipation il y a plus de 3/4 siècle, qui les a précédés dans la voie de la révolution, ne comprend-elle pas aujourd'hui que le tour de l'émancipation du prolétariat est arrivé? Le prolétariat, en face de la menace permanente de ses droits, de la négation absolue de toutes ses légitimes aspirations, de la ruine de la patrie et de toutes ses espérances, a compris qu'il était de son devoir impérieux et de son droit absolu de prendre en main ses destinées et d'en assumer le triomphe en s'emparant du pouvoir. Cette première révolution prolétarienne de l'histoire a même ceci de remarquable que le conflit, l'opposition polaire entre classes, entre d'un côté le prolétariat et sa commune, et de l'autre côté la bourgeoisie et le gouvernement de Versailles, était extrêmement nette et extrêmement bien comprise comme telle par les deux camps en opposition. Alors toutefois, pour comprendre ce qu'est la Commune, il faut revenir un peu en arrière et l'inscrire dans ce contexte historique qui la fait naître et qui en donne le sens. Faut commencer par la Révolution française. Révolution qui a commencé comme une volonté de réforme assez modérée et libérale initiée par la bourgeoisie, la Révolution s'est radicalisée sous la pression populaire. Les souvenirs historiques de la Première République, et plus particulièrement de 1793, le gouvernement régime jacobin, est resté dans la mémoire. C'est des souvenirs historiques qui sont restés très forts et qui ont eu un impact énorme sur la commune. Le nom même de la commune vient de la commune de Paris de 1792. Cette première république n'a pas duré longtemps. Elle a été vite renversée par le coup d'État de Thermidor, qui est suivi de plusieurs régimes oligarchiques et non démocratiques. Le Directoire, le Consulat, le Premier Empire. Premier Empire, tombeau exécuteur testamentaire de la Révolution, qui a imposé un code civil bourgeois à toute l'Europe occupée et dont les souvenirs glorieux ont subsisté à sa défaite et qui a pu être utilisé en ce sens par la réaction, suivi de la Restauration, qui a rétabli la monarchie, mais pas l'ancien régime, et qui a été au fond une monarchie bourgeoise dominée par les propriétaires fonciers, suivi de la monarchie de Juillet. Alors une monarchie bourgeoise, cette fois clairement assumée, un règne des banquiers sans gêne. Une parenthèse dans cette succession du despotisme, en 1848, une insurrection ouvrière renverse le roi Louis-Philippe. C'était la première révolution prolétarienne en France, mais la classe ouvrière était encore peu organisée, avec des idées politiques encore assez confuses. Elle n'était pas prête à prendre le pouvoir. S'est bornée à exiger la République, et qui plus est, une République sociale. Alors ce que devait recouvrir ce prédicat de social n'était pas extrêmement clair. Le fait est que la bourgeoisie, prise de surprise par la Révolution, a dû commencer par composer. La Deuxième République fut instaurée avec des élections au suffrage universel. Mais la bourgeoisie manœuvre, parvient à gagner les élections, s'impose peu à peu et trahit les promesses qu'elle avait faites à la classe ouvrière. Se sentant trahie, les ouvriers tentent une insurrection courageuse mais désespérée, l'insurrection de juin. La classe ouvrière est écrasée, mais la bourgeoisie n'était pas prête à gouverner sous une forme démocratique. La classe ouvrière, de son côté, n'était pas assez forte pour renverser la bourgeoisie. Et la solution à cette impasse fut un régime bonapartiste, au sens propre. Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de l'ex-empereur Napoléon Ier, déjà élu président de la République, fait un coup d'État et devient peu après empereur. C'est l'instauration du Second Empire, un régime despotique censément au-dessus des classes et compromis entre les classes, en réalité dictature d'une clique corrompue, incompétente, sous l'ombre de laquelle le capitalisme se développe rapidement et dont la police étrangle le pays. En 80 ans, la France aurait connu très peu d'années où elle fut république, mais vécu principalement sous le joug de régimes monarchiques de différentes nuances. La bourgeoisie avait visiblement une peur bleue de la république et du suffrage universel et préférait gouverner sous l'ombre protectrice pour elle d'un trône. Si le capitalisme et par conséquent la classe ouvrière se développèrent considérablement durant cette période, en 1870, il y avait à Paris quelques 550 000 ouvriers sur une population de 1 900 000 habitants. Aucun mouvement ouvrier légal n'était toléré. Et la répression freinait beaucoup l'organisation de l'opposition et la censure policière empêchait, en tout cas, rendait difficile la circulation des idées nouvelles. Aussi, à la chute du Second Empire, la classe ouvrière n'avait pas d'organisation de masse à elle, était peu organisée politiquement. Il n'y avait aussi pas de démarcation nette entre le mouvement ouvrier et le mouvement républicain, parce que la République était encore à conquérir et que c'était un objectif central pour les ouvriers. Et que l'écrasement de l'insurrection de juin n'avait pas dissipé toutes les illusions qui pouvaient exister sur la République. Mais les mauvaises choses ont aussi leur fin. De plus en plus contestée, sa police ne parvenant plus à empêcher l'émergence d'une opposition, le régime impérial essaye des pseudo-réformes en trompe-l'œil, et puis se lance dans une aventure très hasardeuse, tentant le tout pour le tout, et déclenche une guerre contre la Prusse. C'est la débâcle. L'armée impériale est très mal commandée, mal ravitaillée, et se fait laminer par les Prussiens. L'empereur lui-même finit par se rendre et se constituer prisonnier à la défaite de Sedan. Donc, on va faire une brève... Bien, c'était le Sire de Fichtoncamp, chanson satirique sur Napoléon III, donc qui, je vous rappelle, a capitulé et qui est prisonnier prussien. L'Empire n'était plus. Un gouvernement provisoire est constitué, le gouvernement de la défense nationale. Face à l'avancée de l'armée prussienne qui occupe la France, ce gouvernement est obligé d'armer le peuple, c'est la garde nationale. Sauf que ce gouvernement a peur du peuple et peur des idées révolutionnaires qui visiblement sont répandues dans la garde nationale. Alors, il préfère devenir le gouvernement de la trahison nationale et fait semblant d'organiser la défense alors qu'en même temps il la sabote et négocie en secret avec Otto von Bismarck, le chancelier prussien. Finalement, le 28 janvier 1871, la France capitule. Le 31 janvier, une insurrection échoue. Le révolutionnaire Auguste Blanqui est arrêté et mis au secret. Ce fait est important parce que Blanqui aurait probablement été le chef dont la commune aurait eu besoin pour vaincre. Mais il ne put pas y participer. En tout cas, Bismarck exige des élections rapides d'une assemblée nationale dont la seule attribution serait de signer la paix. Ces élections ont lieu, elles ne sont ni libres ni transparentes, alors disons scandaleusement truquées, et débouchent sur une majorité ultra-réactionnaire. Un nouveau gouvernement est constitué avec à sa tête Adolphe Thiers. Alors là, sont créées les conditions qui vont déboucher sur un mécontentement croissant qui mènera à l'insurrection. Alors, les causes de ce mécontentement sont au nombre de trois qui vont converger. Alors, premièrement, le refus, l'indignation de la population face à la capitulation. Alors, le mythe de la patrie en danger, hérité de la Révolution française et de la guerre révolutionnaire pour la défendre, était très fort et a joué un rôle non indéniable dans la commune. De là, a posteriori, des relectures patriotiques de la commune, alors, qui ne sont pas complètement fausses, mais qui sont tendancieuses si on oublie les deux causes suivantes. Il y avait une dimension patriotique dans la commune, mais il n'y avait clairement pas que ça, ni même ça principalement. Alors la deuxième cause, c'était la volonté d'instaurer enfin une république. Il y avait des rumeurs insistantes sur un complot monarchiste en train de se tramer, et il y a des bonnes raisons de croire que ces rumeurs étaient fondées, tant par la composition de ce gouvernement provisoire, en majorité monarchiste, que des... provocation du gouvernement, des actes de répression, comme la nomination de généraux ONI. Et troisièmement, enfin, la question sociale, les revendications proprement dites de la classe ouvrière. Alors, le gouvernement voulait trouver un prétexte pour désarmer la garde nationale et reprendre la main sur Paris. Alors, Thiers tente une provocation en essayant le 18 mars d'enlever les canons de la garde nationale que celle-ci avait payé et qui donc lui appartenait. Sauf qu'il a sous-estimé la réaction de la garde nationale, celle-ci voit rouge et organise une insurrection. Le comité central, direction de la garde nationale, plus précisément de la Fédération républicaine de la garde nationale, d'où le nom de fédéré qu'on donne aux communards, devient de fait la direction effective de la ville de Paris. Sauf que ce comité central a trop de scrupules légalistes, il ne se sent pas légitime à exercer le pouvoir. Alors du coup, il ne fait pas la seule chose qu'il aurait fallu faire dans l'immédiat, c'est-à-dire contre-attaquer. Ce qui aurait été facile, le gouvernement de Thiers n'avait presque pas de troupes, il aurait pu être renversé facilement. Mais le comité central de la garde nationale le laisse tranquille et se dépêche d'organiser des élections qui ont eu lieu le 26 mars. La bourgeoisie quitte massivement Paris pour Versailles, laissant le champ libre à la classe ouvrière. C'est ainsi que la révolution est née, comme toutes les grandes révolutions d'ailleurs, d'une crise aiguë, nationale, institutionnelle et sociale. Révolution qui n'était pas prévue ni préparée, était guidée par des souvenirs glorieux et des idéaux parfois imprécis, qui a manqué d'unité de volonté, dont la commune de ce fait fut irréductiblement marquée par la contingence qui l'a fait naître, ce qui fut à la fois sa grandeur et la cause de sa perte. Une assemblée est élue au scrutin majoritaire par arrondissement, une assemblée de 90 sièges, mais seuls 70 siégeront en réalité. Cette assemblée prit le nom de commune. Les quelques élus de droite démissionnèrent aussitôt parce qu'ils avaient trouvé la proclamation de la commune sous le drapeau rouge trop révolutionnaire. Il a fallu faire des élections complémentaires qui ont encore fait perdre du temps. En tout cas, parmi les membres élus à la commune, on trouve quelques 33 artisans et petits commerçants, 24 représentants de professions intellectuelles et libérales, des ouvriers métallurgistes. C'était le premier gouvernement représentatif de la population réelle et pas des seules classes possédantes. Les différents courants du mouvement socialiste et ouvrier de l'époque y siègent. Une vingtaine de jacobins attachés au souvenir de la Révolution française de 1793 et de tendance centralisatrice, qui était à l'origine un mouvement petit bourgeois qui défendait la petite entreprise contre le grand capital, mais qui était surtout un mouvement démocratique qui mobilisait aussi les ouvriers et qui s'était ouvert aux revendications sociales. Les blanquistes, inspirés par Auguste Blanqui, une société secrète et disciplinée qui avait pour tactique principale l'insurrection, visant à instaurer une dictature révolutionnaire centralisée à Paris, avec le communisme comme objectif final. Les proudhoniens, mouvance inspirée par Pierre-Joseph Proudhon, à l'origine une mouvance proto-anarchiste, petite bourgeoise qui avait comme credo le mutualisme, l'apolitisme et une sorte de réformisme, mais qui s'était radicalisée en s'ancrant dans la classe ouvrière. Des radicaux, partisans de l'autonomie municipale et d'une république démocratique et sociale, des collectivistes, membres de la Première Internationale et quelques indépendants. Alors il ne faudrait pas trop s'y méprendre sur ces étiquettes. Les jacobins et les radicaux pouvaient être tout aussi socialistes à leur manière que les proudhoniens, les indépendants ou même, les blanquistes. Par exemple, le jacobin Charles de l'Écluse, qui se rapprochait le plus de ce qu'on pourrait considérer comme un chef de la commune, était également un socialiste. Sous l'empire rédacteur d'un journal d'opposition, Le Réveil, qui diffusait les positions de la Première Internationale et qui faisait de la société de son temps une analyse plus marxiste que nature. Je cite: Personne ne l'ignore, la petite propriété, le petit commerce, la petite industrie tendent à disparaître devant la reconstitution manifeste d'une nouvelle féodalité financière et territoriale. Encore quelques années, il n'y aura plus qu'un petit nombre de fortunes monstrueuses exploitant une nation de prolétaires. Ces différentes tendances d'opinion furent plus unies que vraiment opposées les unes aux autres. Et pour prendre les décisions justes que la révolution exigeait, sur se faire des concessions réciproques, et chacune renonçait à ses dogmes qui n'étaient plus adéquats par rapport à la situation. Alors les jacobins soutinrent toutes les mesures sociales de la commune et toutes les mesures tendanciellement anticapitalistes. Les blanquistes renoncèrent à leur idée d'une dictature parisienne centralisée en acceptant le principe d'une organisation fédéraliste pour la France. Les proudhoniens jetèrent par-dessus bord leur apolitisme, puisqu'ils participaient à l'exercice du pouvoir. et leur mutualisme en acceptant une certaine intervention de la collectivité dans l'économie. Alors, la commune se divisa bien à un moment entre une majorité de jacobins blanquistes indépendants et une minorité de proudhoniens et de radicaux. À l'occasion de... Mais cette division n'intervint que le 28 avril à l'occasion du vote sur un comité de salut public. Alors la commune s'organise, en plus de son plénum, en une commission exécutive, sorte de gouvernement, à la tête de 9 commissions spécialisées. Guerre, finances, sûreté générale, enseignement, justice, subsistance, travail et échange, affaires extérieures, services publics. Ses membres dirigent également les mairies de leur arrondissement. La commune fut de ce fait une assemblée agissante, à la fois législative et exécutive. C'est une caractéristique dont les classiques du marxisme ont fait grand cas et qui l'ont considérée comme une caractéristique essentielle de ce que devaient être les institutions d'un État socialiste, par opposition au parlementarisme bourgeois et à sa séparation des pouvoirs. Alors, la commune ne disposa que d'un temps infime pour déployer son action. Ses réalisations n'en sont que plus remarquables. Elle entama de fait la construction d'une société socialiste et sut prendre des mesures justes dans ce sens, alors même que beaucoup de ses membres n'ont pas prévu de le faire, ni ont même forcément pensé avant. Comme l'écrit Marx dans La guerre civile en France, la grande mesure sociale de la commune, ce fut sa propre existence et son action. Ces mesures particulières ne pouvaient qu'indiquer la tendance d'un gouvernement du peuple par le peuple. Telles furent l'abolition du travail de nuit pour les compagnons boulangers, l'interdiction sous peine d'amende de la pratique en usage chez les employeurs qui consistait à réduire les salaires en prélevant des amendes sur leurs ouvriers sous de multiples prétextes, procédé par lequel l'employeur combine dans sa propre personne les rôles du législateur, du juge et du bourreau en empochant l'argent par-dessus le marché. Une autre mesure de cet ordre fut la remise aux associations d'ouvriers sous réserve de paiement d'une indemnité de tous les ateliers et fabriques qui avaient fermé, que les capitalistes intéressés aient disparu ou qu'ils aient préféré reprendre le travail. Alors, la commune prit une série de mesures sociales, alors, certaines allant dans le sens d'une remise des dettes, une des plus vieilles revendications sociales connues de l'histoire, donc remise des loyers, suspension de la vente des objets déposés au Mont-de-Piété, remboursement pour les objets de valeur de moins de 25 francs, puis fermeture du Mont-de-Piété. Et aussi, on commença la mise en place d'un vrai État social. Pension pour les blessés et les veuves, pour les orphelins, création d'orphelinats, vente publique de nourriture, cantine, distribution de repas, mesures de rationnement. Au plan économique, la commune s'engagea au moins dans les tout premiers pas de la construction d'une société socialiste. Alors nous citerons à cet égard le décret adopté le 16 avril. Je cite « Les chambres syndicales ouvrières sont convoquées à l'effet d'instituer une commission d'enquête ayant pour but de dresser une statistique des ateliers abandonnés ainsi qu'un inventaire exact de l'état dans lequel ils se trouvent et des instruments de travail qu'ils renferment. 2. De présenter un rapport établissant les conditions pratiques de la prompte mise en exploitation de ces ateliers, non plus par les déserteurs qui les ont abandonnés, mais par l'association coopérative des travailleurs qui étaient employés. 3. D'élaborer un projet de constitution de ces sociétés coopératives ouvrières. 4. De constituer un jury arbitral qui devra statuer au retour des 10 patrons sur les conditions de la cession définitive des ateliers aux sociétés ouvrières et sur la quotité de l'indemnité qu'auront à payer les sociétés aux patrons. Alors ce décret impliquait clairement projet de socialisation des entreprises et leur remise aux mains de la classe ouvrière. Alors il ne concerne apparemment que les entreprises que les bourgeois réfugiés à Versailles ont abandonnées, mais ce n'est pas qu'une mesure temporaire puisque le point 4 quand les prévoit de la rendre permanente. Alors, à première lecture, on pourrait lire ce décret dans un sens anarchisant, mutualiste, proudhonien, de pure économie coopérative sans ingérence de l'État. Sauf que certaines indications vont dans le sens d'un minimum de planification par les autorités et d'une régulation de cette économie coopérative. Statistiques, inventaires, constitutions, une activité de planification et de régulation confiée aux syndicats. Alors, quelques ateliers furent effectivement socialisés de cette façon, ils marchèrent d'ailleurs très bien jusqu'à la fin de la Commune, mais la Commune n'a pas eu le temps d'aller plus loin dans cette direction. Et n'oublions pas l'éducation. La Commune avait projeté de mettre en place une éducation publique, gratuite, laïque et obligatoire, standard uniformisée et modernisée, aussi pour les filles, ce qui était nouveau à l'époque. Elle commença à rendre cette avancée réalité. N'oublions pas la culture. La Commune avait ouvert les musées gratuitement au peuple. Elle avait conçu une vision d'un art communal, embellissement de l'espace public, décidé démocratiquement à une échelle locale par opposition à la monumentalité, à la gloire de l'État central. N'oublions pas non plus les sciences. Les savants purent travailler en totale liberté, une libération bienvenue du joug bonapartiste, avec le soutien des nouvelles autorités. Maintenant, une deuxième pause musicale, c'est la chanson « L'insurgé », écrite par Eugène Petit en 1880, à la gloire de la Commune. L'insurgé en question, c'est en fait Auguste Blanqui. Bien, donc c'était « L'insurgé », chanson écrite à la mémoire de la Commune et d'Auguste Blanqui. Donc après les mesures économiques et sociales de la Commune, on va passer à ces mesures politiques. Alors s'il est un terme dans la tradition marxiste qui est controversé, c'est bien celui de dictature du prolétariat. Le Parti suisse du travail avait décidé dès sa fondation de ne pas s'en réclamer pour des raisons... Alors en partie défendable, en partie plus contestable. Il faut bien pourtant, si on veut comprendre ce que ce syntagme signifie, par-delà les surdéterminations dont l'a chargé l'histoire, revenir au sens que lui a accordé Marx et Engels, qu'il avait introduit. Or, Engels le dit très clairement dans son introduction à la guerre civile en France, introduction parue en 1891, le philistin social-démocrate a été récemment saisi d'une terreur salutaire en entendant prononcer le mot de dictature du prolétariat. Eh bien, messieurs, voulez-vous savoir de quoi cette dictature a l'air? Regardez la Commune de Paris. C'était la dictature du prolétariat. Or, la Commune de Paris fut bien une dictature du prolétariat, puisqu'Engels le dit, mais elle fut aussi sans conteste le gouvernement le plus démocratique sans doute que connaissent l'histoire. Les membres de la Commune étaient en effet élus au suffrage universel. Ils étaient responsables devant leurs électeurs irrévocables à tout moment. Ils étaient liés par un mandat impératif. Une forme de démocratie directe fut introduite. La vitalité de la vie démocratique était assurée par les nombreux clubs, formes d'organisation politique héritées de la Révolution française, qui se réunissaient et discutaient en toute liberté. La presse était d'ailleurs totalement libre. Seules les publications versaillaises étaient interdites, encore que cette interdiction était peu et mal appliquée. Tous les fonctionnaires devenaient éligibles et révocables. La Commune décida également d'instaurer une rémunération maximum de 6 000 francs par année, ce qui correspondait à un salaire d'ouvrier qualifié. Pour ses élus et pour ses fonctionnaires, c'est une revendication qui est depuis devenue classique dans le mouvement ouvrier et communiste. Alors ce système n'était pas totalement égalitaire puisque la solde dépendait du grade. Elle était infiniment plus que les rémunérations en vigueur dans tous les gouvernements bourgeois. Et enfin, disons que les membres de la Commune eux-mêmes ne touchaient pas le maximum. Alors toute dictature du prolétariat qu'elle fût, la Commune est une volonté réelle de faire respecter les droits individuels, malgré les circonstances, et de mettre en place un authentique état de droit. Au niveau judiciaire, Il instaura une procédure accélérée, mais avec des garanties solides quant aux droits de l'accusé. Les perquisitions sans mandat étaient interdites. L'habeas corpus, soit l'interdiction de détenir de quelqu'un en garde à vue plus de 48 heures sans passer devant un juge, était garantie. Et les inspections des prisons étaient organisées pour s'assurer que les droits des prisonniers étaient respectés. Il était obligatoire de déclarer le motif de l'arrestation. Des garanties que peu d'États bourgeois, même libéraux en ce temps, assuraient. D'ailleurs, pas tous les États ne le font, même ceux qui se disent démocratiques aujourd'hui. De fait, l'État de droit était tellement garanti que des complices versaillais, dont la culpabilité était indubitable, ne purent pas être condamnés parce qu'il n'y avait pas de preuves tangibles. Alors la Commune a bien pris un décret sur les otages et sur les représailles, elle avait pris quelques otages, mais ces otages ne furent pas exécutés avant la semaine sanglante, et encore, contre l'avis des membres survivants de la Commune, par des troupes désespérées face à la débauche sanglante perpétrée par la soldatesque de Thiers. La Commune instaura également la gratuité des actes notariaux. Et surtout, la sécurité était réelle à Paris en ce temps. Tous les témoins s'accordent dessus, bien plus qu'avant et bien plus qu'après. La Commune constitua également une avancée majeure pour l'émancipation des femmes. Sous la Commune vit le jour la première grande organisation féminine de masse, l'Union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés. Comme son nom ne l'indique pas, ce n'était pas qu'une association de bienfaisance, mais un mouvement politique revendicatif. Il exigea notamment l'égalité salariale, et la Commune commença à introduire cette mesure. Quand on pense qu'on n'y est pas encore, c'est assez remarquable de voir que la Commune a commencé à mettre ça en place. Alors, les femmes étaient politiquement actives sous la Commune, elles parlaient librement dans les clubs et certaines portaient les armes et participaient au combat. Alors, s'il était trop respectueuse du droit existant et pour cette raison procéda à l'élection selon les listes électorales en vigueur, qui étaient entièrement masculines, la Commune avait prévu d'introduire les droits politiques pour les femmes, mais elle n'a pas eu le temps de mettre en place cette mesure. La Commune a également abrogé des dispositions rétrogrades du droit intérieur. Elle a reconnu un mariage libre par consentement mutuel. La distinction entre enfants légitimes et légitimes était abolie. Les enfants légitimes étaient reconnus dans leur plein droit. Alors, la Commune a aboli la conscription à l'armée permanente. La seule armée qu'elle reconnaissait était la garde nationale. Une garde nationale qui se composait de tous les citoyens valides et qui avait le droit d'élire elle-même ses propres officiers. La Commune fut internationaliste. Elle offrit sa citoyenneté à tous les étrangers qui l'avaient demandé parce que le drapeau de la Commune devait être celui de la République universelle. La Commune prit également quelques mesures symboliques, mais qui avaient leur importance. L'introduction du drapeau rouge et du calendrier républicain. La destruction de la colonne Vendôme, monument bonapartiste, militariste et nationaliste. C'est comme ça que cette destruction fut motivée. Détruit la chapelle expiatoire pour Louis XVI et l'hôtel particulier de Thiers. Adolphe Thiers a confisqué ses biens. Bon, après, il ne faut pas prendre en pitié. Il s'est fait reconstruire un palais beaucoup plus beau après aux frais du contribuable. Alors, jusque-là, j'ai parlé de Paris, mais la Commune de Paris ne fut pas totalement la seule. D'autres villes ont eu leur commune. Lyon, Saint-Étienne, Creusot, Marseille, Toulouse, Narbonne, Limoges. Mais malheureusement, celle-ci était généralement mal dirigée, avait un appui populaire limité, pas de programme clair. Et aussi furent-elles éphémères et vite réprimées par les troupes de Thiers. Bon, la Commune fit quelques efforts pour briser son isolement et plaider sa cause auprès du reste de la France. Le 5 avril, elle émit une proclamation au département, proclamation dans laquelle elle dément les mensonges des Versaillais. À la fin du mois d'avril, elle adressa une proclamation aux paysans, disant qu'ils ont des intérêts communs à ceux des ouvriers, remettant comme programme de la Commune pour les paysans une imposition plus progressive, de faire payer les les réparations de la guerre à ceux qui l'ont déclenché, soit la bourgeoisie, une redistribution des terres en faveur de la paysannerie. Alors Marx explique dans La guerre civile en France qu'une alliance entre ouvriers et paysans aurait pu aboutir à l'époque. La commune avait parfaitement raison en disant aux paysans « Notre victoire est votre espérance ». De tous les mensonges enfantés à Versailles et repris par l'écho des glorieux journalistes d'Europe sous la ligne, un des plus monstrueux fut que les ruraux de l'Assemblée nationale représentaient la paysannerie française. Qu'on imagine un peu l'amour du paysan français pour les hommes auxquels, après 1815, il avait dû payer l'indemnité d'un milliard. À ses yeux, l'existence même d'un grand propriétaire foncier est déjà en soi un empiètement sur ses conquêtes de 1789. La bourgeoisie, en 1848, avait grevé son lepin de terre de la taxe additionnelle de 45 centimes par franc. Mais elle l'avait fait au nom de la Révolution. Tandis que maintenant, elle avait fomenté une guerre civile contre la Révolution pour faire retomber sur les épaules du paysan le plus clair des 5 milliards d'indemnités à payer aux Prussiens. La Commune, par contre, dans une de ses premières proclamations, déclarait que les véritables auteurs de la guerre auraient aussi à en payer les frais. La Commune avait délivré le paysan de l'impôt du sang, elle lui aurait donné un gouvernement à bon marché, aurait transformé ses sanctus actuels, le notaire, l'avocat, l'huissier et autres vampires judiciaires, en agents communaux salariés, élu par lui et devant lui responsable. Elle l'aurait affranchi de la tyrannie du garde champêtre, du gendarme et du préfet. Elle aurait mis l'instruction par le maître d'école à la place de l'abêtissement par le prêtre. Malheureusement, ces efforts furent trop tardifs, pas assez systématiques. Leur efficacité était d'autant diminuée par la chape de plomb de la censure policière du gouvernement de Versailles. Et enfin, la Commune a fait trop longtemps que plaider sa cause et essayer de se justifier et n'a appelé aux armes la province que lorsqu'il était trop tard. Paris ne put briser son isolement. Alors cet isolement ne fut malheureusement que l'une des faiblesses et erreurs de la Commune, parce qu'hélas, elle en a eu d'autres. Ils ont, malgré les grandes qualités et la hauteur de vue de ses dirigeants, malgré ses remarquables réalisations, la Commune a eu des faiblesses et des erreurs, sans lesquelles elle aurait pu triompher. Alors le plus grand tort de la Commune, fatal pour une révolution, ce fut ses scrupules légalistes, des doutes sur sa légitimité, un respect trop scrupuleux pour le droit en vigueur, et enfin un manque de résolution et d'audace. Elle aurait pu renverser le gouvernement de Versailles sans problème, au début quand il avait peu de force, mais elle n'a pas osé le faire, elle avait peur de l'image qu'elle donnerait au reste de la France, de ne pas être suivie. Donc du coup, elle a même essayé de discuter avec le gouvernement alors que ça ne servait à rien. Le seul qui profita de ses atermoiements, ce fut Thiers, qui eut le temps de rassembler ses forces. Et enfin, la Commune avait peur de porter la responsabilité d'une guerre civile, comme si Thiers ne l'avait pas déclenchée en essayant de prendre les canons, et se cantonna trop longtemps à une tactique défensive, alors que c'est attaquer qu'il aurait fallu. Deuxièmement, la Commune a souffert d'un manque d'unité de volonté. Alors, le foisonnement des clubs et la vie démocratique extraordinaire et libre qu'ils offraient ne compensaient pas l'absence d'une vraie organisation révolutionnaire digne de ce nom. La présence de plusieurs tendances politiques à la Commune n'était pas problématique en soi. Elle n'a pas été une source de blocage. D'ailleurs, ces différentes tendances ont bien pu travailler ensemble. Ils ne se sont divisés que le 28 avril, où la minorité a voté contre la constitution d'un comité de salut public, estimant que c'est contraire aux promesses démocratiques de la Commune. Elle a fait savoir publiquement. Ma foi, cette décision était trop tardive, et puis elle était plus inspirée par les souvenirs glorieux de 93 que par une vraie pertinence politique. En pratique, elle a fait juste ajouter un échelon supplémentaire à une chaîne de commandement qui manquait déjà de cohérence. Mais en tout cas, ce pluralisme eut pour effet un manque d'unité de volonté, le fait d'engendrer des lenteurs procédurales, parfois une perte de sens des priorités, ce qui est fatal en temps de guerre. Et la Commune eut surtout le grand tort, un trop grand respect de la propriété privée. Elle aurait pu et dû saisir la Banque de France, qui était une banque privée à l'époque. Comme ça, elle aurait disposer des moyens dont elle avait besoin pour financer sa défense et aurait asséché les finances du gouvernement de Versailles. Mais elle n'a pas osé le faire, se contentant de quelques menus crédits que cette banque délivrait, alors que la banque était en train de négocier en secret avec Thiers, et garder scrupuleusement la Banque de France comme un bien de la nation. Et la commune, enfin, avait des faiblesses strictement militaires, dont la garde nationale ne manquait ni de détermination ni de courage, mais enfin, le peuple en armes ne remplace pas une vraie armée entraînée, organisée dans ce but. Surtout, la garde nationale était assez mal commandée, et la dualité de pouvoir qui subsistait entre le comité central et la commune brouillait la chaîne de commandement, ce qui n'est jamais bien en temps de guerre. Et enfin, l'excessive modération au respect de l'état de droit par la commune permettait plus facilement aux agents de Thiers d'agir dans l'ombre. Donc, telles furent les faiblesses qui perdirent la commune. Face à la commune, comme nous l'avions dit, il y avait Versailles et son gouvernement. Alors, pour apprécier ce qu'était ce gouvernement de la bourgeoisie, il suffit de penser à l'homme qu'elle s'était choisi comme son chef, soit Adolphe Thiers. Alors pour ça, il suffit de lire le portrait qu'en fait Karl Marx dans la guerre civile en France. Je cite « Passé maître dans la petite fripouillerie politique, virtuose du parjure et de la trahison, rompu à tous les bas stratagèmes, aux expédients sournois et aux villes perfidies, de la lutte des partis au Parlement, toujours prêt, une fois chassé du ministère, à allumer une révolution pour l'étouffer dans le sang, une fois qu'il est revenu avec les préjugés de classe en guise d'idée, de la vanité en guise de cœur, menant une vie privée aussi abjecte que sa vie publique est méprisable, il ne peut s'empêcher, même maintenant où il joue le rôle d'un Sylla français, de rehausser l'abomination de ses actes par le ridicule de ses fanfaronnades. » Alors, comme la commune avait trop temporisé, Thiers en a profité pour rassembler ses troupes, n'étant pas à une trahison près. Il a secrètement négocié avec Bismarck la libération des prisonniers de guerre français dans le seul but d'écraser la commune. Il a aussi négocié le droit de passage pour ses troupes par la zone d'occupation prussienne qui était mal surveillée par la commune. Alors, personnage méprisable qu'il était, n'a eu aucun scrupule à s'allier à la puissance occupante contre son propre peuple. Et donc, les troupes versaillaises sont entrées à Paris par une porte non gardée qu'un espion versaillais avait repérée. Ce fut alors la semaine sanglante qui dura du 21 au 28 mai, la fin de la Commune. Alors, aux antipodes de la démocratie et de l'état de droit que la Commune avait fait l'effort de garantir, la République bourgeoise de Versailles préfigura et même dépassa en ignominie le fascisme, dans l'arbitraire sanglant et la négation de tout droit. Alors sa victoire ne fut que massacre indistinct de plusieurs dizaines de milliers de personnes. On n'a jamais su faire le décompte et le gouvernement a sans doute minoré les chiffres. Alors la soldatesque de Thiers massacrée et fusillée en masse quiconque lui tombait sous la main, tant des défenseurs de la commune que leurs familles, femmes, hommes, femmes et enfants, que des simples passants qui sont juste retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment, et même des sympathisants versaillais qui ont été pris par erreur. Alors après des milliers d'exécutions sommaires, les survivants ont été enfermés dans des conditions atroces dans les geôles versaillaises. Plus de 1000 sont morts des mauvaises conditions. Et ceux qui ont survécu ont été jugés suite à des simulacres de procès expéditifs et vraiment selon une procédure grotesque et arbitraire, à la peine de mort, au bagne ou à la déportation. Ceux qui ont eu le plus de chance ont pu s'exiler à l'étranger, dont un certain nombre en Suisse. Pendant plusieurs années, une chape de plomb réactionnaire s'est abattue sur la France. Chape de plomb à base de cours martiales, d'état policier, de censure. La Troisième République, selon le mot de Thiers, le régime qui nous divise le moins, par ces mots, il faut comprendre que c'était plus facile de mettre en place une république que s'entendre sur quelle dynastie devait hériter du trône. Cette Troisième République naissait dans le sang de la classe ouvrière. La bourgeoisie montrait son vrai visage, sanguinaire et sauvage, celui d'une classe possédante, prête à tout pour préserver ses privilèges. La République bourgeoise ne s'est révélée être que la façade de la dictature de la bourgeoisie, une dictature impitoyable et féroce, et les droits individuels, censément intangibles, la démocratie, ne sont révélés que des mots creux que la bourgeoisie jette par-dessus bord à la moindre difficulté. Les communards survivants ne purent rentrer en France qu'après leur amnistie en 1880. La répression de la Commune, où la bourgeoisie républicaine a trempé les mains de la même façon que la bourgeoisie monarchiste, provoqua enfin la rupture entre le mouvement ouvrier et le mouvement républicain et a convaincu la classe ouvrière française de la nécessité de s'organiser sans et contre la soi-disant gauche bourgeoise. Non, dernière pause musicale, La Semaine Sanglante, chanson évidemment sur la Semaine Sanglante. La bourgeoisie a poursuivi de scène la Commune de Paris pendant longtemps, parfois encore aujourd'hui. Mais celle-ci fut une source d'inspiration pour les fondateurs du mouvement ouvrier et communiste. Première expérience d'exercice du pouvoir par la classe ouvrière et longtemps la seule, la Commune fut à ce titre une référence obligée. Karl Marx et Friedrich Engels l'ont attentivement étudié pour en dégager des conclusions sur ce que devait faire la classe ouvrière après la Révolution, sur ce que quelles devaient être les tâches et les caractéristiques d'un État issu de la révolution prolétarienne. Alors, la Commune inspira la seule correction explicite que Marx et Engels firent au manifeste du Parti communiste, ceux dont la préface de l'édition allemande de 1872, je cite, « Étant donné les progrès immenses de la grande industrie dans les 25 dernières années et les progrès parallèles qu'elle a accomplis dans son organisation en partie, la classe ouvrière, étant donné les expériences d'abord de la Révolution de février, ensuite et surtout de la Commune de Paris, qui pendant 2 mois mit pour la première fois aux mains du prolétariat le pouvoir politique, ce programme est aujourd'hui vieilli sur certains points. La Commune, notamment, a démontré que la classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre telle quelle la machine de l'État et le faire fonctionner pour son propre compte. » Alors, la grande leçon que Marx et Engels ont tiré de la Commune, c'est que l'État bourgeois est irréformable et que la classe ouvrière ne pourrait pas le faire fonctionner dans ses intérêts, mais doit le détruire. Détruire pour le remplacer par un État prolétarien, révolutionnaire. Alors précisons toutefois qu'il ne s'agit pas d'une abolition pure et simple de l'État. Ça, c'est la conclusion qu'en ont tiré les anarchistes, qui est explicitement rejetée par les classiques du marxisme. Il s'agit bien de fonder un État, mais un État nouveau, qualitativement différent. C'est cette leçon de la Commune qui fut oubliée par la Deuxième Internationale et que Lénine chercha à remettre à l'honneur dans l'État et la Révolution, écrit peu de temps avant la Révolution d'octobre. Alors, par quoi faut-il remplacer la machine de l'État bourgeois? Les caractéristiques essentielles de cet État nouveau sont données par la Commune. Alors, d'abord, il doit s'agir d'une démocratie complète, directe, populaire, une démocratie dont les soviets ont dû être la réalisation. Tous les fonctionnaires et tous les dirigeants doivent être responsables devant leurs électeurs, élus et révocables en tout temps, liés par un mandat impératif. Tous les privilèges des agents de l'État doivent être supprimés et ils ne doivent pas toucher une rémunération supérieure à celle d'un salaire d'un ouvrier qualifié. L'armée permanente doit être remplacée par le peuple en armes. Le parlementarisme bourgeois doit laisser la place des assemblées agissantes, à la fois législatives et exécutives. Alors cet État, doit garder des fonctions répressives pour réprimer l'inévitable résistance de la bourgeoisie Un verset qui va s'accrocher à son pouvoir. Il ne doit pas faire preuve de faiblesse à cet égard pour que les horreurs de la Semaine Sanglante ne puissent plus jamais se reproduire. Mais il s'agit aussi, surtout, en quelque sorte, d'un demi-État, soit un État en voie d'extinction, voué à devenir inutile quand la division de la société en classes aura disparu, et par là aura disparu de la domination d'une classe sur une autre. En quoi consiste précisément l'essence de l'État ? À ce moment-là, l'État pourra se résorber dans la société. Alors, Lénine a fait une petite fête le jour où le pouvoir soviétique a duré 73 jours, soit un jour de plus que la Commune. Étant donné les conditions extrêmes de la lutte, c'était déjà un grand accomplissement. Après, ce n'était que le début, la Commune soviétique a duré 74 ans. Alors, le socialisme est devenu une réalité, une forme de pouvoir populaire, et les progrès sociaux qu'il a rendus possibles étaient tout compte fait remarquables. Ceci dit, aucun État socialiste n'a été une sorte de demi-État en voie d'extinction. Au contraire, c'était des appareils d'État extrêmement sophistiqués, et tout progrès du socialisme consistait plutôt en une sophistication croissante de cet État. Alors, étant donné les tâches complexes que ces États avaient à accomplir, ils se sont dotés d'un personnel spécialisé, une bureaucratie qui n'était plus élective, qui était nommée, qui avait un avancement de carrière au moins classique. Ils ont dû se doter de police et d'armée permanente. Du reste, ils n'auraient pas pu résister plus de quelques jours s'ils ne l'avaient pas fait. Alors même s'ils se réclamaient et disaient que leur instance dirigeante était des assemblées agissantes, en pratique, ils avaient bien des. Et ceux qui existent encore ont bien des parlements et des gouvernements clairement séparés. Classique. Alors ces États eurent raison de ne pas répéter les faiblesses, les erreurs de la Commune, mais parfois ont tordu le bâton dans l'autre sens et n'ont pas toujours respecter l'état de droit que la Commune avait su garantir. Et enfin, leur personnel dirigeant a pu souvent s'émanciper de la classe ouvrière et trop souvent la trahir en restaurant le capitalisme. Alors, l'histoire réelle du socialisme n'a pas totalement réalisé le programme de l'État de la Révolution. Alors, certains disent que ces révolutions ont été trahies. Il serait probablement plus correct de dire que la réalité de l'exercice du pouvoir sur le long terme, à l'échelle d'un pays entier, ne peut pas se déduire d'une expérience limitée à l'échelle d'une ville et sur 72 jours. Et enfin, ce serait une erreur idéaliste de balancer par-dessus bord l'histoire d'un siècle et de revenir à la Commune. Quoi qu'il en soit, donc ces questions doivent être discutées. Qu'il en soit, la Commune ne garde pas moins sa valeur de modèle, d'exemple instructif, d'inspiration de ce qu'un peuple qui est prêt à briser ses chaînes peut accomplir, de ce que la démocratie populaire et le socialisme sont une perspective réaliste et souhaitable. Et nous laisserons le mot de la fin à Lénine. L'œuvre de la Commune n'est pas morte, elle vit jusqu'à présent en chacun de nous. La cause de la Commune est celle de la révolution sociale, celle de l'émancipation politique et économique totale des travailleurs, celle du prolétariat mondial. En ce sens, elle est immortelle. Bien, donc on va maintenant passer aux questions. Alors, comment la Commune de Paris est-elle commémorée dans les pays socialistes? Alors, c'est un événement important. C'est une des pages de l'histoire qui ont été valorisées. En Union soviétique, on a mis en avant quelques pages d'histoire plus particulièrement, alors avant le XXe siècle, comme la révolte de Spartacus, mais la Commune à titre tout particulier. C'était une image souvent utilisée dans. Alors, il y avait forcément des monuments, des noms de rues, même des marques commerciales qui faisaient référence à la Commune. Puis l'État et la Révolution est un classique qui est enseigné. Donc, à ce titre-là, l'expérience de la Commune était connue et étudiée. Après, disons, les pays socialistes ont chacun sans doute plus mis en avant leur propre histoire, leur propre révolution. Par contre, en France, à Paris, ça reste une tradition très vivante, le souvenir de la Commune. Notamment porté par les communistes. Il y a plusieurs événements par année liés à la Commune, et ça reste toujours une référence structurante. Alors sur les répercussions. Sur l'influence de la commune en Suisse. Alors, j'ai malheureusement pas eu le temps de lire le courrier d'aujourd'hui, mais il y a eu un certain nombre de réfugiés et communards qui ont vécu en Suisse. Alors, ma connaissance, la plupart ont préféré rentrer en France dès qu'ils ont été amnistiés. Mais il y a eu une grande influence de la commune, plus généralement de la Première Internationale en Suisse. Alors, après la disparition de l'Internationale, souvent, ces anciens militants ont été les ont permis la structuration de différentes organisations socialistes qui ont fini par fonder le Parti socialiste suisse. La Suisse a accueilli les réfugiés communards. Pratiquement aucun pays, même gouverné par des gouvernements bourgeois, n'a accepté les demandes d'extradition du gouvernement de tierce, qui était visiblement abusive. Au début, un journal réactionnaire en Suisse a commencé par calomnier la commune, mais il a arrêté parce que c'était visiblement pas suivi. Et il avait peur de perdre ses lecteurs. Bon, je pense que c'était important d'organiser cette commémoration, aussi modeste que soit un live Facebook. Et aujourd'hui, comme jamais, la commune de Paris mérite d'être commémorée et doit être célébrée. Ouais, peut-être encore un dernier morceau pour finir ce live Facebook.